13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 16h et en direct. Et je suis ravi, bien évidemment, de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Bonjour, bonjour. Ma chère, comment allez-vous?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu nous intéresse. Des douleurs lancinantes, la tête comme dans un étau, une sensibilité accrue à la lumière et au bruit, ou encore des nausées. Autant de symptômes qui caractérisent la migraine, un mal qui toucherait 10 millions de Français, enfants comme adultes, avec une prédominance chez les femmes. Difficulté, voire impossibilité de travailler, d'avoir des moments en famille ou entre amis qui sont véritablement gâchés. Des crises répétées et souvent imprévisibles impactent la vie professionnelle et personnelle de ceux qui en souffrent. Car si des solutions existent pour apaiser les crises et les espacer, aucun traitement aujourd'hui ne permet de guérir cette maladie invisible et peu reconnue. Alors comment prévenir les crises? Quels traitements peuvent soulager la douleur? Migraine, que faire? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons bien évidemment vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Jusqu'à 16h, vous composez le 39 21 50 centimes la minute pour nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1, et puis Facebook via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Sophie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, je vous appelle de Franche-Comté, j'ai 49 ans.
D'accord. Alors, Sophie, vous souffrez de migraines depuis l'âge de 17 ans. À quoi ressemblaient les premières crises?
Alors, au départ, je mettais ça sur le compte d'un mal de tête banal. Mais qui ne passait pas avec les traitements habituels contre le mal de tête.
Oui.
Et puis, très rapidement, ça m'a handicapée avec des nausées. Je ne supportais pas la lumière du jour, les bruits et une fatigue très, très importante.
Mmh. Vous avez vite compris qu'il ne s'agissait pas juste de maux de tête, même de maux de tête carabinés, mais bien de migraines?
Oui, parce que mon papa était migraineux, oui. Pas le même type de migraine. Et deux ans après, j'ai commencé des études médicales et mon entourage scolaire a très vite fait le lien et m'a orientée vers des spécialistes.
Alors vous avez été rapidement prise en charge dans un centre antidouleur afin de déterminer ce qui pouvait déclencher vos migraines. Quelles ont été les premières conclusions qui vous ont été données?
Pas très reluisantes, puisqu'il n'y avait rien qui déclenchait les migraines plus que d'autres choses.
C'est souvent le cas en plus. Hein.
Voilà, donc les gens disent c'est l'alcool, c'est le chocolat, c'est le gras. Enfin, alors pour ma part, hein, je sais que c'est vraiment personne dépendant, il n'y avait rien plus qu'autre chose. C'est-à-dire que tout était susceptible de déclencher une crise.
Vous avez multiplié les traitements, hein, je pense, pour tenter d'apaiser vos migraines, jusqu'à tomber dans l'abus médicamenteux à deux reprises. Expliquez-moi comment ça s'explique, hein, de tomber dans cet abus médicamenteux.
On trouve un traitement de la crise qui fonctionne, donc oui. On le prend et on le prend dès qu'on ressent le début de symptômes, parce qu'on ne veut pas tomber dans la crise intense qui nous oblige à nous aliter, où on est 24 heures sans aucun contact avec l'extérieur.
Oui.
Et le problème, c'est qu'on en prend, puis un jour, le médecin ne veut plus donner d'ordonnance parce qu'il vous explique que c'est cette prise médicamenteuse qui auto-entretient les crises.
Oui.
Et le seul moyen, c'est d'aller faire une cure de sevrage, en fait, supprimer ces traitements.
Ah oui, carrément, on tombe carrément addict à certains traitements.
Mmh. Ah oui, c'est de l'addiction. Hein.
Vos migraines, elles ont eu des conséquences sur votre vie personnelle et professionnelle, j'imagine?
Alors, personnelle, je m'en suis vraiment aperçue quand j'ai eu pendant un an un traitement de fond qui avait quasiment supprimé mes migraines.
Oui.
Et où j'entendais mon entourage, il y avait plus « Ah ben non, on ne fait pas ça, maman a mal à la tête » ou on reprenait des activités, ma vie tournait pas autour de ma migraine, mais c'est plus, je m'en suis aperçue pendant ce moment-là où j'en avais plus. On s'habitue, et c'est terrible, hein, mais on s'habitue à vivre avec cette maladie.
On s'habitue vraiment, lorsque vous dites on s'habitue vraiment, oui. Et au point de vue professionnel, en fait, vous est-il déjà arrivé de rater des journées de travail à cause d'états migraineux trop prononcés?
Alors, peu parce que j'encaisse et puis j'ai pas eu trop le choix parfois parce que j'étais à mon compte et j'avais des obligations professionnelles.
Que faites-vous ? Mais il m'arrive, dans la vie ?
À l'époque, j'étais sage-femme libérale.
D'accord.
Donc là, maintenant, j'ai complètement changé d'orientation et je peux adapter mon activité à mon état puisque je suis agent immobilier. Donc, si vraiment je suis pas bien, je reste chez moi. Mais bon, je travaille pas, quoi. Compliqué financièrement, mais oui, ça a un impact, inévitablement. On est, même quand on est au travail, on n'est pas comme d'habitude. On est énervé, on est fatigué, tout prend des proportions, tout est décuplé finalement.
Oui, oui. Bah, vivre avec une douleur permanente, lancinante comme ça, ça doit être assez infernal. Vous disiez tout à l'heure, Sophie, que votre père souffrait de migraines. Vos enfants, je crois savoir qu'ils souffrent aussi de migraines aujourd'hui. Est-ce que c'est héréditaire de cette migraine ?
Apparemment, oui et non, puisque comme il n'y a pas d'étiologie, il y aurait peut-être, enfin, ça serait peut-être génétique, mais par quel biais ? Personne ne l'explique.
Personne n'est capable de l'expliquer jusqu'à aujourd'hui, en tout cas vous concernant.
J'ai 49 ans et on ne m'a jamais expliqué.
Quelle est la fréquence de vos migraines aujourd'hui et quelle est leur intensité d'une échelle de 1 à 10 ?
Alors, 3 à 5 crises par semaine. Donc là, je suis à la limite de l'abus médicamenteux. Hein. La cure se profile à l'horizon.
Oui.
Et des crises de 0 à 10, à 6, c'est la fréquence. Les plus fréquentes. Et une fois par mois, j'ai une crise où je vais être à 9, voire 10 sur 10 en intensité de la douleur.
Alors, comme vous venez de le préciser, la cure médicamenteuse n'est pas loin. Vous en êtes à nouveau à être addict à un traitement, parce que j'allais vous demander comment vous vous soignez, mais finalement, rien ne vous soigne aujourd'hui.
Non, puisque les traitements de fond n'ont démontré aucun effet.
Oui.
Ou alors avec des effets secondaires majeurs qui n'étaient pas compatibles avec la vie professionnelle et autres. Et du coup, les traitements de crise, on les prend quand on a mal. Alors, soit on attend, mais là, on tombe dans une crise majeure et qui m'alite, enfin, ne me permet pas de faire quoi que ce soit.
Oui.
Ou alors, dès que j'ai mal, je prends et je sais que je suis...
Vous dépassez les limites.
Ouais, je le sais. Hein, je retourne. J'ai une consultation en juin au centre de la douleur. Je me doute de la
réponse du médecin. Merci beaucoup, Sophie, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Et bien évidemment, je vous souhaite plein de courage et je vous souhaite bien évidemment de vaincre cette migraine. Dans un instant, nous accueillerons Laurence. Ces migraines ont commencé à l'âge de 40 ans et Laurence arrive à les freiner au quotidien.
Europe 1. Vous vivez ce que vit Sophie, qu'on vient d'entendre, c'est l'histoire d'un de vos proches. On a envie de vous entendre, vous aussi, on se demande ce qu'il faut faire pour soulager des migraines qui reviennent sans cesse. On vous attend au 3921, écrivez-nous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, nous parlons des migraines, ces douleurs qui vous handicapent, ces crises que rien ne guérit, c'est votre cas, vous nous racontez votre histoire au 3921.
Et nous avons eu Sophie dans la première partie de cette émission qui nous expliquait souffrir depuis son enfance de migraines et tombée même dans l'abus médicamenteux tellement quand elle trouvait quelque chose qui pouvait la soulager, eh bien elle en abusait et qu'elle en était à sa deuxième séance pour décrocher d'un traitement qui au final ne marchait pas. On accueille maintenant Laurence sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Laurence, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Laurence ?
Moi, j'ai 59 ans et je vous appelle de Bourgogne.
D'accord.
D'un petit village qui s'appelle Ravière, voilà.
D'accord.
Alors, j'habite depuis quelques années. Donc, moi, je suis migraineuse depuis à peu près 20 ans.
Mm-hmm.
Hein, ça m'a pris autour de 40 ans. Avant, jamais je n'avais eu de mal de tête. Jamais.
Jamais ?
Non, jamais.
Et
c'est venu comme ça, un peu du jour au lendemain, sans qu'il y ait... beaucoup d'explications, en fait.
Donc, vous n'avez pas vraiment compris ce qui vous arrivait lors des premières crises. Ça a dû être assez angoissant au début.
C'est assez violent, surtout. On se demande ce qui va se passer, quoi. Parce que c'est vraiment... Il y a une image qui est très, très vraie. C'est l'orage dans la tête. Et c'est tout à fait ça, quoi.
Oui.
Alors, les premières crises étaient tellement violentes que je pensais que j'allais faire un AVC complètement, quoi. Hein. Et donc, le médecin a tout de suite compris ce qui se passait et donc m'a rassurée, entre guillemets, en me disant que c'était juste des migraines.
Alors, vous avez consulté un neurologue, hein, Laurence.
Oui, enfin, j'ai consulté un généraliste dans un premier temps. Oui. Et puis, j'ai été suivie par un neurologue sur l'hôpital général à Dijon.
D'accord.
Hein, pendant quelques années. On a essayé divers traitements. Enfin, j'ai essayé divers traitements de fond. Mm-hmm. Hein. Je me sentais un petit peu comme un cobaye parce que, bon, il faut déjà trouver le bon traitement de fond, apparemment.
Oui.
Donc, j'allais le voir tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il changeait mon traitement. Et puis, au final, ces différents traitements de fond ont eu des effets indésirables majeurs.
Oui.
Hein, et ça n'a jamais stoppé mes migraines. Donc, aujourd'hui, je ne prends plus qu'un traitement en cas de crise.
Mmh. Depuis 2015, hein, vous avez décidé d'arrêter les traitements de fond, je crois.
Hein. C'est ça.
Vous connaissez les facteurs... Allez-y, parce que quoi ?
Ben, c'est pas anodin hein, de prendre des bêta-bloquants, donc je ne donnerai pas le nom, mais des bêta-bloquants, tout le monde sait ce que c'est.
C'est pas
anodin d'en prendre tous les jours et sans résultat, surtout. Mmh.
C'est surtout cela, parce que sans résultat, ça doit en plus vous faire penser que vous souffrez d'autres choses. Je pense qu'on pense tout de suite, dans votre cas, à la tumeur, en tout cas quelque chose de grave, surtout lorsque ça vous prend à l'âge de 40 ans. Vous dites que les migraines vous handicapent dans la vie de tous les jours. Dans quel contexte, précisément, ces migraines vous handicapent le plus ?
Ben, cela impacte ma vie familiale, évidemment, ma vie sociale, enfin ma vie tout court, quoi. Hein.
À quelle fréquence vous les avez ? À quelle fréquence vous les
avez ? J'ai au moins 4 grosses crises par mois.
Ah oui, d'accord.
C'est par mois, quoi. Hein. Mm-hmm. C'est pas par semaine, c'est par mois et c'est déjà beaucoup. Mm-hmm. Et quelquefois, rien ne fonctionne. C'est-à-dire que moi, la migraine me réveille, hein, ça prend souvent la nuit. Donc, ça me réveille. Et donc, quand je prends le triptan, ben, je pense que c'est déjà trop tard quelquefois.
Ouais.
Parce qu'il faut vraiment prendre le triptan en tout début de crise.
Ce que vous appelez le triptan, c'est ce fameux métabloquant ou
Non, c'est le médicament de crise.
D'accord.
Hein, voilà.
C'est ce qui apaise vos crises aujourd'hui, lorsqu'elles surviennent, même si vous le prenez un peu en retard,
écoutez,
comme vous dites.
Ben, des fois, ça fonctionne et des fois, ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc, il y a eu quelques fois où je me suis retrouvée à l'hôpital parce que, bon, vous avez mal 3 jours d'un côté de la tête et puis après, ça bascule de l'autre côté pendant 3 jours également, 72 heures de chaque côté. Et vous avez pris le nombre maximum de médicaments que vous pouvez prendre. Et là, vous faites quoi ? J'étais aux urgences, je suis restée plusieurs jours sous perfusion avec des calmants et voilà quoi. Mm-hmm. Mais c'est très très compliqué, oui, effectivement.
En tout cas, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, rien ne vous soulage malheureusement, Laurence, parce que c'est une maladie peu reconnue, en tout cas vue à tort d'ailleurs, juste comme un gros mal de tête hein, par beaucoup de personnes. Sauf l'entourage, bien évidemment, qui voit combien ces migraines peuvent impacter la vie personnelle. Merci beaucoup, Laurence, pour votre témoignage au 3921. Et bien évidemment, je vous souhaite beaucoup de courage et de trouver le traitement qui vous soulagera. Dans un instant, nous allons accueillir le professeur Anne Ducrot. Elle est neurologue et elle est présidente de la Société française d'études des migraines et céphalées.
Pascal nous écrit sur Facebook « Tellement de causes possibles pour les migraines, stress, hypertension, hormones, digestion. Heureusement, les triptans existent, c'est ce que nous disait Laurence. Certes, il faut les combiner au paracétamol, mais au moins la migraine, pour elle, pour Pascal, ne dure qu'une journée. »
Europe 1.
Des maux de tête, souvent on parle de la migraine, des maux de tête très violents. Vous en souffrez, l'un de vos proches, vous nous racontez votre histoire au 3921. La migraine et ses répercussions sur votre vie, ces maux de tête qui surviennent sous forme de crises répétées qui peuvent être très handicapantes. Vous racontez votre histoire cet après-midi à Olivier Delacroix au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec le professeur Anne Ducrot, neurologue et présidente de la Société française d'études des migraines et céphalées. Bonjour professeur, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui.
Je vous en prie, c'est quelque chose, votre vécu, le vécu de vos patients nous intéresse, parce qu'on voit que 20% de la population souffrirait de ces migraines. Alors, tout d'abord, professeur, pouvez-vous nous expliquer la différence entre un mal de tête classique et une migraine ?
Alors, la migraine est une maladie neurologique qui se définit par des critères de diagnostic.
Oui.
Puisqu'il n'y a pas d'examen complémentaire qui permette de faire le diagnostic. Hein. C'est la description des caractéristiques des crises par les patients.
Mmh.
Et donc, pour diagnostiquer une migraine, il faut que le patient ait déjà eu plusieurs crises, au moins 5, que chaque crise dure entre 4 heures et 3 jours, et que la céphalée, c'est-à-dire le mal de tête, soit suffisamment important pour gêner les activités quotidiennes ou alors les empêcher complètement, la personne étant obligée de s'aliter, et que cette douleur soit volontiers unilatérale et pulsatile comme un cœur qui bat,
oui.
augmentée au mouvement, mm-hmm. et associée soit à une gêne au bruit et à la lumière, soit à des troubles digestifs qui sont parfois très importants, des nausées, vomissements. Et certains patients ont tout à la fois.
Certains souffrent de migraines avec aura. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque ce type de migraine ?
Un tiers des migraineux ont des auras. Qui peuvent soit survenir lors de chaque crise de migraine, dans ce
oui.
cas-là on parle de migraine avec aura pure, ou alors être associés, c'est-à-dire qu'ils vont parfois avoir une aura, d'autres pas.
D'accord.
L'aura est un phénomène neurologique transitoire qui comporte des troubles visuels. Donc la personne va voir des sortes de zigzags brillants, un peu scintillants,
oui.
apparaître dans une partie de son champ visuel et ensuite l'envahir progressivement. Ou alors elle peut ressentir des fourmillements d'une main qui remonte ensuite au bras et puis à la figure. Et elle peut aussi avoir des difficultés de langage et à parler. Et tous ces troubles vont survenir progressivement et successivement et durer une demi-heure ou une heure.
Ce
et
qui,
ensuite être ouais. suivi de céphalée.
Ce qui doit être particulièrement plus prenant, angoissant,
ces
migraines avec aura.
Effectivement, hein, ouais. sont souvent vécues là de manière très pénible par
ouais.
les patients.
Mmh.
à cause du caractère angoissant des symptômes
ouais.
et de leur proximité avec les symptômes de l'accident vasculaire cérébral.
Mmh.
Et donc, par exemple, ce matin, j'ai vu une patiente en consultation qui a des auras migraineuses non suivies de céphalée. Donc, elle a la particularité d'être migraineuse sans jamais avoir de maux de tête sévères. Et bien évidemment, elle avait très peur d'avoir été victime d'un AVC et l'IRM cérébral était strictement normal. Donc, ce sont des phénomènes électriques hein, avec la propagation sur le cortex cérébral,
ouais.
c'est-à-dire sur le cerveau,
uh-huh.
d'une onde de dysfonctionnement, un petit peu comme une vague qui avancerait tout doucement et qui explique ces phénomènes.
Quels sont les facteurs déclencheurs connus aujourd'hui ?
Alors, le fait d'être migraineux ou non migraineux est gouverné par des facteurs génétique.
Oui.
Donc pour être migraineux, il faut avoir hérité de ses deux parents d'une combinaison multiple de gènes qui vont faire que votre cerveau est capable de produire une crise de migraine.
Mmh.
Et pour produire les crises de migraine, il faut que la personne soit soumise à une combinaison de facteurs déclenchants qui sont des changements. Donc tout changement peut éventuellement déclencher une crise de migraine. Et ça peut être des changements internes ou externe. Donc, changement interne principal chez les femmes, c'est la variation des hormones au cours du cycle hormonal.
Mmh.
Donc, par exemple, la période cataménale, la période des règles, avec
oui.
une chute des œstrogènes qui favorise la survenue d'une crise.
Mmh.
Ensuite, il y a les changements au niveau du travail. Donc, une période de surmenage et ensuite une phase de relâchement.
Mmh.
peut déclencher une crise. Le fait de trop dormir ou de pas assez dormir, le fait de sauter des repas, le fait de ne pas suffisamment s'hydrater, le fait d'être très sédentaire alors que naturellement on aurait besoin de beaucoup bouger, le fait d'avoir des contrariétés ou des stress répétés.
Oui.
Et ensuite, les changements de temps, donc les changements de pression atmosphérique peuvent être associés à des risques de migraine. Donc vous voyez que ces changements sont multiples et font partie de la vie de tous les jours.
Oui.
Donc la personne migraineuse, elle a un cerveau qui, du fait de sa migraine et des gènes qu'elle a reçus, est plus sensible à tous les changements qu'une autre personne non migraineuse.
Et lorsque je vous entends évoquer tous ces facteurs, j'imagine combien il doit être difficile de diagnostiquer, en tout cas de trouver les traitements qui correspondent à ces migraines. Quels sont les traitements les plus efficaces à ce jour ?
Alors, le traitement de la migraine, il comporte trois volets. La première chose, c'est d'agir sur certains facteurs déclenchants évitables. On n'a pas parlé de l'alcool, par exemple. Donc, il y a des personnes migraineuses qui ne peuvent pas boire une goutte de vin, parce que ça va immédiatement déclencher une migraine. En général, ils ont d'emblée supprimé ça de leur vie de tous les jours. Mais il existe des irrégularités qui favorisent les migraines et dont certaines personnes peuvent ne pas avoir encore pris totalement conscience. C'est notamment le cas, par exemple, d'avoir des irrégularités de sommeil, de ne pas assez bien s'hydrater ou d'avoir une alimentation irrégulière. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut des traitements de crise. Et là, les deux auditrices précédentes en ont parlé. Donc, les traitements de crise les plus efficaces sont des triptans, c'est-à-dire des antimigraineux spécifiques de crise,
oui,
que l'on peut combiner au cours des crises sévères à des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Professeur Anne Ducrot, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de cette migraine que l'OMS classe parmi les 20 maladies ayant le plus fort impact social. On va voir quelles sont les conséquences sur le quotidien des personnes qui en souffrent. Dans quelques instants, nous en parlerons avec Sabine. Elle souffre de migraines et a récemment créé l'association La Voix des Migraineux pour sensibiliser le public justement à ce mal.
Martine a 62 ans et témoigne au 39-21. Je suis migraineuse depuis des années. Depuis ma ménopause, c'est plus doux. J'ai vu une naturopathe qui a amélioré ma vie grâce à un régime spécial. Ce n'est toujours pas réglé, mais je gère mieux les douleurs maintenant.
Europe 1.
Que faire contre ces migraines qui vous gâchent la vie? Vous nous racontez votre histoire, on vous écoute sur Europe 1 au 39-21. Vous souffrez de migraines, ces maux de tête plus ou moins forts qui reviennent de façon chronique. Olivier Delacroix vous écoute cet après-midi au 39-21.
Et avant d'accueillir Sabine sur l'antenne d'Europe 1, nous sommes toujours avec le professeur Anne Ducrot, neurologue et présidente de la Société française d'études des migraines et céphalées. Professeur, vous étiez en train de m'expliquer que pour soigner aujourd'hui, en tout cas les traitements auxquels on arrivait aujourd'hui, étaient une combinaison entre des triptans et des métabloquants. Si j'ai bien compris, existe-t-il d'autres traitements lorsque cela ne marche pas? Est-ce qu'il existe d'autres méthodes?
Oui, alors déjà, en traitement de fond, il y a de multiples traitements de fond, possiblement efficaces, et le parcours de la personne migraineuse peut être difficile parce qu'il n'y a pas de moyen de savoir à quel traitement il va répondre ou ne pas répondre.
Mm-hmm.
Donc, c'est des successions d'essais, et puis si ça marche bien, on continue, et si ça ne marche pas ou s'il y a des effets indésirables, on stoppe. Mais ces traitements de fond, ils réduisent la fréquence des crises, c'est-à-dire qu'ils peuvent diminuer la fréquence des crises de moitié, ce qui est déjà très bien chez les personnes qui sont sensibles.
Oui.
En revanche, effectivement, il existe des personnes qui sont en échec de traitement de fond répété, ou alors chez qui, même avec un traitement de fond bien pris, on réduit la fréquence des crises, mais si on part de 25 jours par mois, eh bien à la fin, on en aura toujours 12 ou 13,
oui,
ce qui est énorme.
En plus, ouais.
Alors, professeur Anne Ducrot, on a de nombreux témoignages au standard de personnes qui nous disent que lorsqu'elles ont changé de boulot vers un travail moins stressant ou lorsqu'elles sont parties à la retraite, les migraines ont cessé. Comment vous l'expliquez?
Eh bien, c'est à cause du rôle du stress. Donc, le stress est un facteur aggravant des migraines. Le fait d'avoir une vie plus équilibrée, avec moins de stress, chez ces personnes, réduit la fréquence des crises.
D'accord. On va continuer à parler de ces migraines et vous allez continuer à nous accompagner de vos éclairages, professeur Anne Ducrot. On va accueillir maintenant Sabine sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Sabine.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Sabine?
J'ai 56 ans et j'appelle du Val d'Oise.
D'accord. Alors vous, Sabine, vous souffrez de migraines depuis l'enfance. Mais petite, on vous disait que c'était des crises de foie. Et c'est finalement à l'âge de 27 ans que l'on vous a diagnostiqué des migraines avec aura.
C'est à 19 ans qu'un généraliste a posé le...
À 19 ans, d'accord.
Et à 27 ans, un neurologue l'a confirmé.
D'accord. Comment se manifestent-elles ces migraines avec aura?
Dans mon cas, elles sont assez sévères puisque ça commence par des auras visuelles. Ensuite, j'ai des fourmillements, des paresthésies. Je perds la parole à un moment et puis je la récupère, mais c'est mot à mot, syllabe par syllabe. Et à peu près en même temps que tout ça, je perds la motricité du côté gauche.
Oui, comme l'expliquait...
La jambe totalement, ouais, et le bras, ça dépend des crises. Mmh.
Alors, après la ménopause, vos migraines ont empiré et vous êtes aujourd'hui, comme vous le disiez, en retraite pour invalidité. L'année dernière, vous avez fondé l'association La Voix des Migraineux avec d'autres personnes sujettes aux migraines. Quel est l'objectif de cette association? Est-ce que vous vous sentiez seul dans votre coin et peut-être vouloir trouver des solutions en échangeant avec les autres personnes souffrant?
Alors, c'était pas tout à fait ça, je me sentais pas seule, mais en regardant sur les forums,
oui,
dans les forums USA, il y avait des échanges d'informations, de solutions proactives, dans les forums francophones, c'était plutôt de la détresse qui s'exprimait d'un manque d'information. Donc avec d'abord Lorraine, puis Justine et ensuite Laetitia, on s'est dit que l'objectif, les forums ne répondaient pas tout à fait aux besoins, que les malades avaient besoin d'informations fiables, de trucs pour gérer leur pathologie. Et aussi, il y avait un gros problème, la stigmatisation.
Si j'évoquais la solitude, c'est parfois, lorsqu'on souffre d'un mal comme ça, il est bon de pouvoir échanger avec les autres, d'abord pour se sentir moins seul, et puis pouvoir se donner quelques solutions. Est-ce que c'est ce qui se passe avec la voix des migraineux? Est-ce que vous donnez parfois des petits trucs pour vous soulager déjà?
Sur la voix des migraineux, il y a des trucs, il y a tout un site.
Oui.
Avec beaucoup d'informations sur la migraine, mais il y a un onglet très, très détaillé sur survivre au quotidien avec la migraine. Sur la page, il y a aussi des informations fiables qui sont renouvelées pratiquement tous les jours, mais il y a aussi des témoignages de situations de vie, vivre avec la migraine et la grossesse, l'adolescence, l'enfance. Plutôt que de parler sur sa situation personnelle, c'est partir d'une situation où la migraine est problématique, et de développer le sujet, et que les gens témoignent, se partagent des trucs.
Et c'est la meilleure manière de pouvoir s'identifier à un cas ou un autre. Merci beaucoup Sabine pour votre appel et pour votre témoignage, et pour tous ceux qui souffrent de migraines. Aujourd'hui, je les invite bien évidemment à aller sur la page Facebook de La Voix des Migraineux, où ils pourront échanger. Dans un instant, nous allons accueillir Amaury. Il est migraineux depuis l'enfance, et c'est en consultant un ostéopathe qu'il a réussi à apaiser ses douleurs.
Europe 1. Vous souffrez de maux de tête récurrents, des migraines qui surgissent parfois sans crier gare. Comment les prévenir? Comment être soulagé? Que faire contre ces migraines? 3921 pour nous appeler. Vous souffrez de migraines, vous avez appris à vivre avec les crises qui peuvent survenir à tout moment. On vous écoute au 3921. Je rappelle que vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Amaury. Bonjour Amaury, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Amaury?
J'ai 35 ans et j'habite à Paris.
D'accord. Alors, vous souffrez de migraines depuis l'enfance. On vous a prescrit pas mal de traitements pour prévenir et soulager de vos douleurs. Est-ce que cela a été efficace jusqu'à maintenant?
En fait, non. Moi, ce qui s'est passé, c'est que depuis que je suis petit, j'ai eu des migraines.
Oui.
Mes parents m'ont envoyé faire des scanners, des IRM et autres. Et pendant des années, on ne voyait rien. Et il y a 3 ans, j'ai carrément fait un malaise. J'étais hospitalisé, on m'avait fait ponction lombaire, on pensait qu'il y avait une méningite, tous les scanners injectés, IRM et autres.
Oui.
Et donc, ils ne trouvaient rien, au tel point qu'ils pensaient que j'étais un infabulateur, que j'étais là pour rien.
Mmh.
Et alors il en allait en voir un kiné, qui est aussi ostéo,
oui.
Il me dit attends, je vais regarder ton cou.
Oui.
Et en fait, il s'avère que j'avais les cervicales au niveau du cou qui étaient collées et qui empêchaient l'afflux sanguin d'arriver jusqu'au cerveau. Et donc, je me faisais des migraines pas possibles. Et maintenant, j'ai la chance de, à chaque fois que j'ai une migraine, je vais voir cet ostéo. Et il me décolle les cervicales. Et maintenant, juste après, ça n'a plus rien.
Et aujourd'hui, le soulagement, en tout cas, lorsque vous avez vu cet ostéo, la première fois qu'il vous a touché, le soulagement a été immédiat. Vous avez senti que
non,
c'était
24 heures. Quoi.
24 heures. Vous vous sentez mieux donc aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que ça vous aide à appréhender, vous appréhendez moins les crises aujourd'hui?
Oui, parce que maintenant je sais ce que j'ai, entre guillemets, et que dès que j'ai mal pendant une journée, je prends rendez-vous chez mon ostéo et il me manipule, il me débloque les cervicales. Mmh. Et derrière, dans les quelques heures qui suivent, j'ai plus mal. Alors qu'avant, c'était des maux de tête à en pleurer, à taper contre les murs. C'était atroce, invisible.
Je suppose que cela a changé énormément votre vie. Quelles étaient les fréquences de vos migraines? Et aujourd'hui, comme l'évoquait le professeur Anne Ducrot tout à l'heure, quand on réduit les migraines, en tout cas quand on passe de 25 jours et qu'on en enlève 12, c'est quand même, on gagne, on est gagnant. Vous avez réduit dans quelle proportion ces migraines?
Ah, moi, les migraines pouvaient durer 2 à 3 semaines
sans
arrêter.
Ouais.
La nuit, vous vous réveillez, vous avez mal au crâne, c'était un enfer. Et là, maintenant, c'est dans les 24 heures, je vais chez mon ostéo et j'ai plus rien. Alors après, je sais bien qu'il y a des milliers de migraines différentes et que moi, c'est un cas parmi des milliers. Mais c'était Moi, ça a changé ma vie. Je ne pouvais même pas aller travailler tellement j'avais mal. Oui. La lumière du jour me faisait encore plus mal. Oui. Voilà, c'était un enfer.
Professeur Anne Ducrot, je me retourne vers vous. Dans quelle mesure l'ostéopathie peut-elle soulager les migraines, comme on l'entend avec Amaury ?
Alors, l'ostéopathie n'est absolument pas un traitement d'efficacité démontré hein, dans les migraines, puisque le processus de la migraine, il est génétique. Oui. Et il naît à l'intérieur du cerveau. Et d'aller faire des manipulations au niveau cervical, si vous voulez, ne change ni vos gènes, ni votre cerveau. Mmh. Cependant, si les crises s'accompagnent à cause de l'intensité de la douleur, d'une douleur musculaire par contracture, eh bien, elle va pouvoir aggraver la migraine, oui, et aggraver la durée de la crise. Donc, probablement que chez ce monsieur, Amaury, la manipulation lève ce blocage musculaire et agit sur cette composante.
En tout cas, l'ostéopathie n'est pas encore reconnue comme étant voilà, un traitement dont l'efficacité est totale. Je sais qu'il y a plus de femmes qui sont plus touchées que les hommes. Alors, vous évoquez plusieurs facteurs tout à l'heure, générales, qui provoquent ces migraines. Mais pourquoi les femmes sont-elles plus touchées que les hommes ?
C'est en raison des œstrogènes et donc des hormones féminines. Donc, avant la puberté, chez les petits garçons et les petites filles, avant la puberté, il y a autant de migraineux que de migraineuses.
Oui.
Une fois qu'on passe la puberté, la fréquence chez les femmes augmente pour devenir 2 à 3 fois plus importante que chez les hommes à cause du rôle des hormones sur le cerveau, la vascularisation et la sensibilisation à la douleur.
Vous parlez de vascularisation, justement. On dit qu'il faut boire de la caféine. Alors, qu'est-ce que cela déclenche et est-ce vrai d'abord ?
La caféine est un des traitements possibles de crise.
Oui.
C'est-à-dire qu'en début de crise de migraine, boire un café peut aider à soulager la douleur.
Mmh. Merci professeur, vous restez avec nous bien évidemment pour continuer à nous donner vos éclairages tout au long de cette émission. Merci beaucoup Amaury pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir Anna. Elle aimerait connaître la cause de ses migraines pour pouvoir les prévenir parce qu'elle souffre depuis maintenant longtemps.
Beaucoup d'appels au standard d'Europe 1. Vous nous dites que faire contre les migraines au 3921. Parmi les solutions qui semblent fonctionner chez nos auditeurs, l'homéopathie, la naturopathie, l'ostéopathie comme Amaury, le changement de pilule contraceptive, la respiration abdominale aussi en cas de migraine ophtalmique. Et puis Yannick sur Twitter, hashtag Europe 1, nous dit qu'un traitement contre l'hypertension il y a 2 ans l'a soulagé. Il ne souffre que rarement de migraines aujourd'hui.
Europe 1.
On parle des migraines cet après-midi. Qu'est-ce qui vous soulage ? Que faire contre ça ? Vous nous appelez 3921. On poursuit sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Nous parlons de la migraine. Que faire pour soulager la douleur ?
Et pour conclure cette émission, nous allons avoir dans quelques instants Anna. Mais je crois, Ombline, que vous avez une question au standard concernant le professeur Anne Ducrot.
Oui, une question de Sarah qui nous dit au 3921, quand on souffre de migraines, est-ce qu'on est prédisposé à faire un AVC, professeur Anne Ducrot ?
Alors, pour la migraine sans aura, il n'y a pas d'augmentation du risque d'AVC. Pour les personnes qui ont une migraine avec aura, et surtout si ce sont des femmes, il y a une légère augmentation du risque d'avoir un AVC un jour. Et donc, il est important pour les femmes qui ont des migraines avec aura de ne pas fumer et de ne pas prendre de contraceptifs oraux, c'est-à-dire une pilule contraceptive de type œstroprogestative. Donc ça, c'est une information qui est quand même importante.
Oui, qui est très importante. Nous accueillons maintenant Anna au standard d'Europe 1. Bonjour Anna.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Anna ?
J'ai 38 ans et je vous appelle d'Ardèche.
Vous avez des migraines depuis l'âge de 27 ans. Au début, vous pensiez que c'était lié au stress. Pourquoi avoir d'abord pensé au stress ?
Eh bien, parce que la première fois que j'ai eu une migraine, c'était pendant que j'étais au travail.
D'accord. Suite à une situation particulière ?
Suite à une journée de 12 heures.
D'accord.
Donc, je suis infirmière, donc dans un service, donc il y a la chaleur aussi, le stress. Donc voilà, j'avais pensé au stress principalement.
Vous avez consulté des médecins pour comprendre d'où venaient ces migraines, en fait, quand elles se sont répétées ?
Oui, parce que moi, ça a commencé par des fourmillements au niveau du bras gauche,
ouais,
et de la lèvre. Lèvres en haut et en bas, mais côté gauche, simplement. Donc, mon médecin m'a fait passer un scanner pour voir s'il n'avait rien du tout, un scanner cérébral.
Oui. Et quel type
Il n'y avait pas...
Allez-y, il n'y avait pas
Non, Le scanner n'a rien donné.
D'accord.
Le scanner n'a rien donné.
Et donc, du coup, vu que le scanner n'apportait aucune réponse, quel type de traitement vous a-t-on prescrit à ce moment-là?
Un traitement, un médicament pour la migraine. Quand je sentais des symptômes arriver, il fallait que je le prenne.
Un traitement de fond, vous le décririez comme ça?
Non, c'était simplement quand je sentais les symptômes qui arrivaient au départ. Voilà, donc les fourmillements, il fallait que je le prenne.
D'accord. Quelle est la fréquence de vos migraines aujourd'hui et que faites-vous lorsqu'elles arrivent? Vous continuez ce traitement-là?
Oui, je le prends. Mais quand, en fait, mon traitement a changé parce que moi, j'ai des nausées, j'ai vomi quand j'ai de la migraine. Donc, j'avais un spray nasal. Un médecin m'avait prescrit un spray nasal qui était très efficace, vraiment très, très efficace. Ce spray nasal n'est plus distribué.
Pourquoi?
Donc, ça, après, c'est les laboratoires.
D'accord.
Déjà, il était cher, certainement cher.
Oui.
Et puis, peut-être pas assez. Assez distribué
assez rentable.
Au niveau de... Voilà, assez rentable, exactement. Donc, je pense qu'il a été arrêté au niveau de la fabrication.
Mmh.
Mais par contre, c'est le même médicament, mais en version cachée.
D'accord. Donc, vous avez tenté une thérapie non médicamenteuse, puisque ce spray nasal était non médicamenteux.
Si, il était médicamenteux.
D'accord.
Il était médicamenteux.
Mais alors, est-ce que vous avez tenté une thérapie non médicamenteuse, c'est-à-dire au-delà de ce que vous preniez? Est-ce que vous avez tenté l'ostéo? Non.
Non, parce que elles ne sont pas si fréquentes que ça.
Oui.
Quand ça arrive, voilà, ça arrive, mais elles ne sont pas si fréquentes. Donc, je n'ai pas essayé d'autres méthodes.
Mm-hmm. Professeur Anne Ducrot, qu'est-ce qui explique que certaines personnes deviennent migraineuses tardivement, comme c'est le cas d'Anna ou de Laurence qu'on a entendu?
Alors déjà, elle n'est pas devenue migraineuse si tardivement, hein, parce que bon, la migraine en général est une maladie qui débute chez l'adulte jeune ou l'enfant, et 90% des cas démarrent avant 40 ans. Mais on peut parfaitement démarrer des migraines au-delà, hein, tout est possible.
D'accord.
Mais c'est quand même plutôt une maladie de gens jeunes avec un cerveau hyper excitable par rapport à la normale. Et l'âge de début est quand même expliqué beaucoup aussi par des facteurs génétiques, c'est-à-dire que plus on a des maladies héréditaires, plus elles démarrent tôt.
On a aussi des questions, pardon, professeur Anne Ducrot, au Standard Europe 1, concernant la consommation d'alcool. Est-ce que consommer du vin, de l'alcool fort
des
aussi...
Stupéfiants.
Oui, bah, on n'a pas abordé la drogue aussi. Ça a un effet sur les migraines négatives, en l'occurrence.
Alors, en général, et il y a eu de larges études dessus, les personnes migraineuses sont des gens qui boivent peu d'alcool parce que l'alcool est un facteur déclenchant de crise très puissant. Donc, si chaque fois que vous buvez de l'alcool, même pas en excès, hein, vous avez ensuite une crise de migraine, eh bien ça vous fait passer l'envie, entre guillemets, de boire de l'alcool. Pour ce qui est des stupéfiants, il n'y a pas de lien direct, hein, mais là aussi, la plupart des migraineux, hein, ne sont pas des personnes à risque par rapport à d'autres, hein, d'avoir des addictions à différentes substances.
Alors, je le disais en préambule de cette émission, aujourd'hui, aucun traitement vraiment ne permet de guérir cette maladie invisible et peu reconnue. Pourquoi en est-il ainsi, professeur Anne Ducrot?
C'est le cas pour la plupart des maladies neurologiques. Ce sont des maladies chroniques qui sont gouvernées par des facteurs génétiques, très souvent. Hein.
Oui.
Il existe des traitements pour améliorer les symptômes, diminuer les crises, mais pas pour guérir, parce qu'on ne sait pas modifier le fonctionnement neuronal.
Où en est-on de la recherche? Parce que je suppose que, comme pour plein d'autres maladies qui empoisonnent le quotidien, hein, parce que ces migraines à répétition empoisonnent le quotidien professionnel ou à la maison, où en est-on de la recherche? Est-ce qu'on a quelques pistes sérieuses aujourd'hui?
Tout à fait. Alors, il y a eu de très grands progrès dans la compréhension des mécanismes de la maladie, notamment dans l'identification de substances, de molécules clés dans la douleur migraineuse au moment des crises, et notamment une qui s'appelle le CGRP, qui a eu un développement thérapeutique avec la mise au point d'anticorps anti-CGRP ou contre le récepteur du CGRP. Et ces médicaments sont déjà disponibles dans certains pays.
Oui.
elles sont efficaces, y compris chez des patients déjà en échec de plusieurs traitements de fond classiques pris oralement. Donc, ce qu'on espère, c'est que ces traitements seront bientôt disponibles en France à la prescription pour les patients les plus sévèrement atteints.
Professeur Anne Ducrot, je rappelle que vous êtes neurologue et présidente de la Société française d'études des migraines et céphalées. Je vous remercie pour vos éclairages cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1 concernant cette migraine qui empoisonne la vie. Merci Anna pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Sophie, à Laurence, à Sabine et à Amaury de nous avoir appelés. La migraine impacte profondément le quotidien des personnes qui en souffrent, mais la recherche avance, on vient de l'entendre, et les traitements préventifs existent et peuvent diminuer la fréquence et l'intensité des crises. Se mettre dans le noir, au calme, se masser les tempes avec de l'huile essentielle de menthe poivrée diluée peut soulager lorsque la crise survient. N'hésitez pas à consulter un médecin et puis ensuite un neurologue, comme pas mal d'entre vous l'ont témoigné aujourd'hui, qui vous proposera un traitement adapté. Vous pouvez aussi contacter l'association La Voix des Migraineux, qui est là pour vous soutenir et pour échanger sur les petits trucs qui peuvent soulager. Vous pouvez bien évidemment continuer à échanger entre vous sur les réseaux sociaux.
Oui, vous avez été nombreux à réagir. On l'a beaucoup dit au Standard Europe 1 cet après-midi, le 39-21, également Twitter, hashtag Europe 1. Et puis il y a le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, ça c'est votre endroit. Et d'ailleurs, je remercie Lynette, Jennifer, Lucille, Angelina, Coco qui nous ont écrit cet après-midi sur ce sujet de la migraine. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous faire confiance sur ce groupe, sur la page Facebook d'Europe 1. On est à 3866 membres.
Bravo.
Faut le dire de
merci.
Temps en temps. Merci à
merci
vous.
Et puis, vous.
Instagram, Olivier Delacroix officiel, on l'oublie pas.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de la pédocriminalité, un fléau encore tabou. Officiellement, selon le ministère de la Justice, 4 affaires de violence sexuelle sur 10 sont des agressions sexuelles sur mineurs. Un chiffre bien loin de la réalité, car combien osent en parler? Combien osent le dire? Alors, si vous avez été victime de violence sexuelle lorsque vous étiez enfant ou adolescent, ou si votre enfant en a été victime, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Et oubliez-moi, nous serons là. J'ai bien évidemment été ravi de passer cette heure avec vous.